C'est le thème qui a été choisi par le conseil ou par Christian, je ne sais pas d'où ça vient, la sagesse. On veut faire une série de prédications où c'est ce sujet qui est mis en avant. Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et je me suis rendu compte que, ben non, franchement, c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que c'est quelque chose qu'on recherche quand on a des décisions à prendre. C'est quelque chose quand on a peur de ce qui va arriver, quand on craint un peu les conséquences de nos choix, ben on crie à Dieu pour avoir de la sagesse. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est un sujet qui est peu traité, je m'en suis rendu compte, mais ça représente quelque chose de très profond, la sagesse. Ça a profondément affaire à la nature même de notre relation avec Dieu. Le fait qu'on ait des créatures, le fait qu'on ait des personnes à l'image de Dieu fait que cette notion de sagesse est très centrale. Alors je me réjouis d'entendre ce que les autres prédicateurs vont dire sur ce sujet, parce que je trouve que ce n'est pas facile, parce que c'est profond. Alors j'ai décidé ce matin, je vais être très, essayer d'être simple, je ne vais pas entrer dans mille réflexions. Donc je me suis concentré pour effleurer ce sujet sur un seul passage, un seul petit, quelques versets dans les Proverbes, qui est le livre qui nous parle essentiellement de la sagesse. Et j'aimerais juste donner quelques éclairages à partir de ce passage. Puis ensuite, essayer de nous guider ou de nous donner quelques ouvertures sur comment entrer, comment trouver cette sagesse. Alors, je vais lire Proverbes chapitre 2, les versets 1 à 12. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent en intégrité. Il protège les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, et ainsi tu seras délivré de la voie du mal. Joli programme hein, quand on lit ça. J'aimerais juste dire trois choses à partir de ce verset. D'abord, c'est quoi la sagesse? La nature de la sagesse. Tu peux passer. Voilà. Vous voyez, il y a des mots-clés dans ce verset. Hein. La connaissance, l'intelligence, la raison, la compréhension, la réflexion. Toutes sortes de mots qui nous indiquent de considérer les choses, d'y réfléchir, de les analyser, de les regarder, d'essayer de les mettre en ordre, vraiment de comprendre profondément les choses. Faire mettre en route notre intelligence. Et on en parlera après, y mettre beaucoup d'énergie. Mais ce qui m'a frappé d'abord, c'est vraiment cette insistance sur la réflexion. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, même s'il y a un côté où c'est vrai. Il y a une part importante de réflexion. Il y a une part importante de considérer les choses. On peut pas c'est pas passif avoir de la sagesse. C'est quelque chose qu'on cherche et qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qui a à faire avec la raison. Et je me suis demandé, mais bon, il y a des tas de termes, hein, sagesse, connaissance, intelligence, raison, compréhension, réflexion. Est-ce qu'il y a une valeur particulière au mot sagesse? Quand on lit ce passage, on a l'impression que ça regroupe un peu le tout. Quelle est la nuance ou quelle est Ouais, l'éclairage particulier du mot sagesse. Alors, comme dans la vie courante, dans la Bible, les mots ne sont pas employés de façon très rigide. Ils sont souvent employés les uns pour les autres. Mais il me semble que derrière le mot sagesse, il y a une notion supplémentaire à toute la réflexion, à toute la raison. C'est la question de la responsabilité. On a réfléchi, on a pensé, on a analysé. Mais la sagesse, c'est que le résultat de ces réflexions, il est positif, il a une valeur. Être sage, c'est réfléchir, mais réfléchir de manière responsable. Et c'est absolument central dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas que le livre des Proverbes qui parle de ça. Dans le Nouveau Testament, on a de nombreux passages et on se rend compte que c'est quelque chose qui est sous-jacent de presque toute la Bible. J'aimerais juste citer deux versets dans le Nouveau Testament quand même. Éphésiens 5, verset 17, où Paul dit « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez. Pas stupide, comprendre. Et puis dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Réfléchir, considérer. Je me suis rendu compte que c'est une notion sur laquelle on insiste assez peu. On a beaucoup d'insistance et justifié à écouter la voix de Dieu, à entendre ce qu'il a à nous dire, à recevoir ses paroles, ses indications. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi quelle chose faire. Et je pense que c'est une bonne recherche, écouter la voix de Dieu. Mais la recherche de la sagesse, de la compréhension, est peut-être prioritaire là-dessus. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21, Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties, les paroles données, ne les méprisez pas, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Les paroles qui sont reçues, tout ce qui est entendu, c'est souvent, heureusement, des cadeaux de Dieu. Mais c'est pour ça que je disais que la sagesse a à faire avec la responsabilité, avec... Devant ces paroles, on a discerné, à comprendre si c'est juste ou si c'est faux. C'est notre responsabilité. Et je vous parle, c'est une sorte de prophétie, si on veut, et dans 1 Corinthiens 14, verset 29, quant aux prophètes que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Toujours, toujours Dieu nous veut responsables. Jamais Dieu ne prend finalement, et je pense qu'on peut vraiment dire jamais, même si c'est des fois un peu ambigu, nous sommes toujours responsables de nos choix. Nous sommes toujours responsables de nos décisions. On peut recevoir des indications de Dieu, on peut être guidé, on peut recevoir, mais finalement Dieu travaille et veut qu'on soit responsable. On ne pourra jamais accuser Dieu face à une de nos décisions. Elles sont toujours 100% de notre responsabilité. Elles se prennent avec Dieu, il est présent dedans, mais foncièrement. Et ça a à faire avec ce que je disais tout à l'heure. On est des personnes responsables. On est à l'image de Dieu. Et être à l'image de Dieu, ben ça veut dire que nos choix ne sont pas ceux de Dieu, sont les nôtres. On est à son image. Comme lui est libre, on a cette liberté. Ce n'est pas très facile à comprendre et à vivre des fois, mais c'est absolument fondamental. C'est pour ça que c'est si important de poursuivre la sagesse. Et c'est mon deuxième point. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, dans un certain sens. Ça s'apprend. Si tu peux. Voilà, tu l'as déjà mis, c'est bien. Acquiert la sagesse. Non, c'est l'autre. Alors, je vais le dire comme ça. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La sagesse se recherche. Elle ne se recherche pas simplement. Elle se recherche avec toute notre énergie. Et puis, il y a le verset suivant. Je crois que si tu avances. Il ne vient pas ? Voilà. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. Une énergie pour vraiment reconnaître. C'est pas évident. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. Il faut qu'on ait vraiment une volonté, qu'on soit prêt et qu'on recherche cette chose-là. Et le commencement de la sagesse, c'est acquiert la sagesse. Le début de la sagesse, c'est cherche-la, acquiert-la. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Vous voyez ces termes, l'insistance, l'importance qu'ils donnent à rechercher cette sagesse, à ne pas croire que les choses viennent tout seules. Nous sommes des êtres responsables, intelligents, logiques, on a reçu quelque chose, mais nous sommes responsables de le mettre en route. Tout le reste des proverbes, finalement, essaye de nous faire sentir un peu qu'est-ce que c'est cette sagesse. Et il y a deux catégories de personnes que présentent les proverbes qui sont en fait l'opposé de la sagesse. C'est les stupides et les paresseux. Et je trouve important parce que ça se rejoint. Être stupide, c'est ne pas réfléchir. Mais être paresseux, c'est aussi ne pas réfléchir. On peut être très intelligent, avoir une logique et puis par simple paresse, ne pas faire l'effort nécessaire, indispensable pour trouver cette sagesse. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un verset un peu avant qui dit « Vous ne trouverez pas la sagesse, il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience. » On refuse les leçons de l'expérience. Et je trouve, je réfléchis à moi-même, mais des fois, on a beaucoup de peine à réfléchir à soi-même. Mais on pense à des gens, sans essayer de les accuser, mais on pense à des gens qu'on connaît et qui sont souvent, dans certains domaines, des caricatures d'une certaine attitude. Ce qu'il y a, c'est qu'on est chacun une caricature d'une certaine attitude, mais on ne le voit pas, ce qui est toujours rassurant. Mais observer les autres, c'est quand même... Si on le fait avec sympathie, c'est quand même utile parce que ça nous permet, ça nous avertit. Et il y a beaucoup de gens quand même, je trouve, qui se conduisent, moi j'ai marqué ça, qui marchent au sentiment, qui marchent au coup de cœur, qui marchent à la pensée, à l'impulsion, à l'inspiration d'un moment et qui avancent comme ça, sans s'arrêter, sans réfléchir, sans considérer les choses, sans voir ce qui est, est-ce que ça joue, est-ce que c'est vraiment ça? Et je crois que le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse, mais le commencement de la sagesse, c'est quand même se remettre en question. C'est quand même réaliser qu'on a des bases où on se trompe. Et si on n'a pas à l'esprit ce fait-là, on va foncer et on ne va jamais acquérir vraiment cette sagesse. On ne va jamais grandir dans cette dimension-là. Un peu plus loin dans les proverbes, il y a un autre verset que j'aime beaucoup, qui dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. » Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Pourquoi ? Parce que se croire sage, c'est pas se remettre en question. Se croire sage, c'est de croire que les choses que l'on voit, que l'on dit, que l'on fait, sont justes, sont simples. Et c'est vraiment souvent erroné. C'est erroné dans notre comportement. On est aveugle à ce que l'on fait souvent. On prend des décisions un peu qui nous semblent logiques superficiellement, mais on est aveugle à la réalité. Et je dirais spirituellement aussi. Moi, je me suis rendu compte, quand même, souvent, on a des a priori sur Dieu, on croit qu'on sait des choses de la parole, on croit qu'on a compris des choses, et heureusement on en a compris, mais si on n'est pas prêt à les reconsidérer, si on n'est pas prêt à se dire « je peux me tromper », eh bien, il y a plus d'espoir pour celui qui est... Il y a plus à atteindre d'un stupide que de celui qui ne remet pas en question, qui n'a pas ce sentiment profond des limites de notre intelligence, des limites de nos capacités. Et un des chemins pour voir les choses, et je pense que c'est là où on pêche souvent, c'est de regarder les conséquences de nos actes, d'apprendre par l'expérience, d'apprendre par les choses. Dans le domaine spirituel, on peut avoir des principes, des idées, mais des fois, on observe, on se dit, mais ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. Et souvent, on ne veut pas regarder ça, parce que ça nous dérange. Je crois qu'apprenons de l'expérience, osons confronter nos théories avec la réalité. Dieu est plus grand que nous. On peut se tromper, on peut avoir raison, on peut se poser des mauvaises questions, mais posons-nous nos questions. La sagesse se recherche. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui grandit. C'est un peu compliqué, hein. Comment savoir si ce que je reçois de Dieu est vraiment de Dieu, si ce n'est pas de Dieu? Est-ce que mon expérience joue? Franchement, c'est difficile. Mais il y a une troisième chose dans ce passage, tu peux passer à le revenir, qui dit, le verset 6, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Ouf! C'est difficile, c'est compliqué, mais... Il y a quelqu'un qui donne ce qui est nécessaire. Je peux chercher la sagesse, je peux poursuivre la sagesse, je peux faire des efforts pour trouver la sagesse simplement à cause d'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui la donne. Hors de ce que Dieu donne, il n'y a pas de vraie sagesse. Il y a une sagesse qui est celle du monde. Et le Nouveau Testament, en particulier l'Épître aux Corinthiens, insiste pour nous dire, mais attention, la sagesse du monde, elle est biaisée, elle ne trouve pas vraiment Dieu, elle isole Dieu. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Dans l'Épître de Jacques, il a été dit que cette sagesse du monde, elle ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Oh! Je poursuis la sagesse, je réfléchis, je me positionne, je veux comprendre, j'analyse, je cherche les choses. Mais ça peut être démoniaque. Alors comment faire? Comme c'est que Dieu qui nous donne cette sagesse, finalement elle vient de lui, il faut rechercher vers lui. Jacques nous dit encore, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse, elle se recherche. Mais elle peut se rechercher parce qu'il y a quelqu'un qui la donne. Et là, il y a quelque chose de très profond, présent toujours dans les Écritures, c'est le fait de rechercher, de prier, de demander, de vouloir recevoir, elle cherche, et le fait d'agir, d'y mettre de l'énergie. On est des êtres humains, des hommes, des femmes, et on agit, on réfléchit comme des êtres humains. Les deux choses vont en parallèle. Il y a ce fait que Dieu est à l'œuvre et donne, et il y a le fait que je recherche et j'agis et je marche. Les deux choses vont en parallèle. Et la sagesse, elle se trouve pas simplement en se plaçant devant Dieu, en lisant la parole et en réfléchissant. La sagesse, elle se vit dans l'expérience, elle se vit dans l'action, elle se vit parce qu'on prend des décisions et on apprend au travers de cela. C'est un chemin. La sagesse, c'est un chemin. Ça s'apprend dans l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce message « Trouver la sagesse » parce qu'il faut chercher la sagesse, mais on va la trouver. On cherche la sagesse, et c'est notre responsabilité, mais on la trouve parce qu'il y a quelqu'un qui la donne. Alors comment la chercher? Comment progresser? Comment suivre ce chemin d'apprentissage? Alors je me suis dit, c'est un peu comme une escalade. Je grimpe une paroi rocheuse et je vais de pas en pas, j'apprends. C'est difficile, mais je grandis, je progresse. Et j'aimerais, pour terminer, vous donner 4 prises pour grimper dans l'escalade de la sagesse. 4 points d'appui, qui sont des points d'appui à demander et qui sont des points d'appui à utiliser, à vivre, à mettre en pratique. Tu peux passer le... Voilà. La plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui viennent habituellement, ont reçu nos voeux de bonne année à Suzy et à moi. Et dans ces voeux de bonne année, j'avais mis une petite image avec 4 versets. En fait, c'est des versets qui sont extraits d'une prédication, d'une suite de messages d'un de mes prédicateurs théologiens favoris, qui est John Piper. Il s'appelait « 4 Obstacles in Bible Reading ». 4 obstacles dans la lecture de la Bible. Et il développe ça de façon intéressante d'ailleurs. Mais quand j'ai vu ces versets, je me suis dit, ils sont vrais pour la lecture de la Bible. Et faire ces prières avant de lire la parole est certainement une bonne chose. Mais ils vont beaucoup plus loin, ces versets. Moi, j'ai trouvé ces versets centraux. Alors, je vais juste regarder verset après verset et dire juste quelques indications sur comment on les utilise, en quoi ces versets nous permettent de grandir en sagesse. Alors le premier, c'est une, voilà. Incline mon cœur, c'est le psaume 119, versets 36 et 37. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts, détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Je l'avais mis que la première partie du verset sur la petite, sur l'image précédente. Là, j'ai mis la deuxième partie aussi. Ça va ensemble. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Un changement de mentalité. La sagesse du monde, elle est vraiment très faussée. Est-ce que ça, elle est très illusoire. Nous croyons tous beaucoup de mensonges. Nous n'en sommes pas conscients. Oui, en vieillissant, en grandissant, en progressant, on identifie un certain nombre de mensonges dans nos vies, dans nos conceptions. Mais il nous reste une profonde base mensongère. Et on a vraiment besoin de faire cette prière. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on recherche très difficilement. Qu'est-ce qu'elle dit en gros? Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Alors, je ne sais pas comment vous êtes quand vous priez, mais quand même, mes prières vont très fort vers mes intérêts. Même des intérêts positifs, j'ai envie de grandir dans ma foi. Ok, c'est mon intérêt personnel, mais c'est quand même mon intérêt. Si je grandis dans ma foi, ça me fait du bien. Si je connais Dieu, ça me satisfait. C'est une bonne satisfaction. Si j'ai de la joie en famille ou si j'ai de la joie avec mon épouse, c'est une bonne satisfaction, c'est un intérêt. J'ai tout avantage à avoir des bonnes relations avec Suzy, vous voyez. C'est mon intérêt. Mais cet intérêt, ce n'est pas le centre. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Ce qui est beaucoup plus important que mes intérêts, ma joie, mon progrès, que n'importe quoi, c'est le plan de Dieu. C'est ça qui est au centre. Dieu, on a tendance à présenter la foi chrétienne comme quelque chose qui satisfait, quelque chose qui fait du bien, quelque chose, on va vers d'autres et on leur dit, mais écoute, si tu connaissais Dieu, ça change tout dans la vie. Ce qui est parfaitement vrai. Mais c'est pas le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est qu'on est créé par Dieu pour lui. Le fond de la chose, c'est que ce qui m'arrive à moi n'est qu'un petit élément de ce que Dieu produit, fait pour lui-même et que le Père fait pour le Fils, surtout. Vous voyez? Incline mon cœur à voir, non pas à moi, mais à voir ce que Dieu veut. Dans le temps de louange tout à l'heure, je me disais, Dieu nous appelle à être des témoins, à proclamer qui il est. Je me disais, je vais parler avec mes limites, mais finalement, je remplis une mission. Ce que je dis, ce que je vis, ce que je fais, même si j'en suis pas conscient, je suis surtout conscient des limites, honore Dieu. si Dieu m'a appelé à cette position, et c'est vrai pour chacun de nous, où qu'on est, eh bien, c'est qu'il nous a appelés à manifester qui il est dans le monde, à être des témoins, à être lumière. Eh bien, nous le sommes, malgré les limites, parce qu'il y a la vie de Dieu, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, on peut dire, malgré nos limites, non, on l'est, et c'est important. C'est plus important de se dire et de croire que je manifeste quelque chose de Dieu que de me dire, me lamenter parce que non, je ne sais pas, j'y arrive pas bien, c'est ok. Non. Ce qui est important, c'est Dieu. Est-ce que Dieu fait avec nous est parfait? Ce que Dieu fait avec nous a du fruit. Ce que Dieu fait avec nous, qu'on en soit conscient ou pas, ça fait partie de son plan. Et c'est ça qui est important. Pas dire qu'il ne faut pas être conscient de ses faiblesses et puis chercher à progresser. Non, c'est même une des raisons de ce message, quoi, pour poursuivre la sagesse. Mais Dieu donne. Vous êtes, je suis, nous sommes vraiment, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes réellement des lumières. Mais ce qui est important, ce n'est pas que je sois une lumière, c'est que la lumière brille. Deuxième passage, psaume 119, 18, « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. » Donc on peut se dire, ces versets, Piper les a proposés pour lire la parole. Et en effet, quand on lit la Bible, « Seigneur, mais ouvre mes yeux pour que je voie, dans ce que j'ai lu 50 fois, les merveilles de ce qu'il y a là derrière. » Et vous savez, les merveilles, c'est les versets encourageants. Quand je lis verset, je suis en train de lire, on lisait les proverbes, ben j'ai mon petit stylo, comment on appelle ça, le marqueur jaune, et je marque en verset, en jaune, les versets comme ça. Voilà les merveilles. Mais la prière, c'est, non, voir aussi les merveilles de la loi de Dieu dans les choses qui me confrontent. Voir les merveilles de la loi de Dieu dans les choses qui sont, je ne comprends pas, ou qui sont difficiles. Il y a à peine besoin de prier, de voir des merveilles quand c'est des choses qu'on reçoit avec reconnaissance ou émerveillement naturel. Mais il y a besoin de prière parce que dans la Bible, il y a des choses difficiles. Et il faut prier pour les recevoir comme des merveilles. Et c'est des fois même important de se concentrer et de travailler et de réfléchir parce que la croissance dans la sagesse, elle vient aussi de comprendre les choses qu'on a de la peine à comprendre. Mais ce n'est pas seulement vrai, je trouve, dans la lecture de la Bible. La loi, les merveilles de ta loi, la loi dans, en particulier dans le psaume 119, ce n'est pas la loi au sens restreint du terme. Il a un tas de synonymes, la loi, les commandements, les décrets, etc. etc. C'est le, je dirais, l'ensemble de ce qui se passe. Et la prière de voir les merveilles de ta loi, les merveilles du plan de Dieu, c'est de les voir aussi comment elle se déroule dans nos propres vies. Ne pas voir seulement les merveilles dans les choses géniales que Dieu nous accorde et qui nous arrivent, mais de voir les merveilles de Dieu dans les circonstances difficiles. La même chose qu'avec ces versets difficiles dans la Bible. Eh bien, la prière à faire pour gagner en sagesse, c'est de voir que quoi qu'il advienne, dans tout ce que je vis, eh bien, il y a quelque chose des merveilles de Dieu. Parce que tout ce qui arrive fait partie de la sagesse de Dieu. Il fait partie d'un plan bon et sage. Et il sait merveilleux. Seigneur, aide-moi à voir dans les choses qui me confrontent à quel point ces choses, finalement, quand je serai au-delà de l'incompréhension actuelle, combien merveilleux tu as été. Et combien ces choses-là sont qui me dépassent. Ben aide-moi à les voir comme vraiment merveilleuses. Et merveilleux, ça ne veut pas seulement dire beau, ça veut quand même dire, au sens propre de ce terme, incompréhensible. Au-delà de la compréhension. Le verset suivant, toujours dans les psaumes. Alors, Seigneur, dispose mon cœur à craindre ton nom. Ça, c'est ce que, par exemple, second 21 traduit. Et sur la petite fiche, là, j'avais mis une autre traduction, celle de la Nouvelle Français Courant. Là, je trouve qu'elle explicite ça. « Seigneur, dispose mon cœur à craindre ton nom. » C'est très beau. « Dispose mon cœur », on comprend ce que ça veut dire. « À craindre ton nom », comprend. Et ça résonne, je dirais, un verset comme ça. Mais la version Français Courant, elle traduit ça « Seigneur ». Au lieu de dire « dispose mon cœur », elle met « mets en moi cette seule préoccupation à craindre ton nom, à reconnaître ton autorité. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Et une prière qu'on peut faire. « Seigneur, mets en moi cette priorité, cette seule préoccupation, reconnaître ton autorité. » Et si vous réfléchissez un peu, c'est vraiment le commencement de la sagesse. Si Dieu est parfaitement sage, si tout ce qui arrive fait partie d'un plan que Dieu contrôle parfaitement, eh bien, commencez par le reconnaître, reconnaître cette autorité, reconnaître cette réalité, ben c'est vraiment le commencement de la sagesse. Et ça veut dire de nouveau une chose, je ne suis pas le centre, je ne suis pas le centre, je ne suis pas le personnellement, le motif premier de ce qui arrive et de ce que Dieu fait. Dieu n'est pas à mon service. Moi, je suis à son service. Reconnaître son autorité, craindre son nom, reconnaître son autorité. Il m'appelle, il nous appelle. Ben, je disais tout à l'heure, il nous appelle à être témoins. Ben, il nous donne ce qu'il faut pour le faire et on le fait. Mais est-ce que je reconnais cette autorité? Est-ce que je reconnais cette priorité? Et franchement, on n'aime pas l'autorité, même celle de Dieu. Pourquoi cette prière est vraiment nécessaire? Parce qu'il y a dans notre cœur un non profond à se soumettre, même à Dieu. Et on peut en discuter, on peut réfléchir, on peut. Mais c'est présent. Moi d'abord. Prier. Et le dernier passage, le dernier accrochage, la dernière prière qui conduit sur ce chemin de la sagesse, c'est, psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons tout au long de nos jours dans la joie et dans l'allégresse. » Tout autre chose, vous voyez, toute une autre dimension. « Rassasie-nous de ta bonté. » Pourquoi? Mais parce que tout le reste, tout ce travail, toute cette énergie, toute cette recherche n'est possible que parce que je reconnais, je sais, j'expérimente, je crois, je vis que Dieu est bon. Rassasie-moi de ta bonté. S'il n'y a pas cette nourriture, il n'y a pas cette réalité que le Saint-Esprit produit en nous pour nous révéler Dieu, pour nous faire comprendre qui il est, ben, on n'aura jamais cette énergie pour chercher cette sagesse, pour reconnaître cette autorité, pour voir les merveilles. Il y a besoin d'une révélation et d'une révélation de l'infinie bonté de Dieu. C'est la vraie source, c'est le vrai moteur. Heureusement, c'est ce que le Saint-Esprit donne. Il met en nous, il verse en nous l'amour de Dieu, la révélation de Dieu. Et on en a besoin. Mais il la donne, elle existe. Et de nouveau, elle est à recevoir. Si vous voulez, c'est le moteur pour chercher la sagesse, c'est ce qui peut nous mettre en route. Mais la recherche de la sagesse nous fait découvrir cette bonté. C'est dans l'expérience qu'on réalise la bonté de Dieu. C'est quand on vit des choses difficiles et que tout à coup on réalise la présence et l'action de Dieu qu'on apprend vraiment profondément qu'il est bon. C'est quelque chose que Dieu nous dit, qu'on reçoit, c'est une révélation, mais c'est aussi une expérience. Nous sommes responsables, nous sommes des personnes, nous avançons, nous grandissons dans la sagesse et la connaissance de Dieu. C'est un chemin, c'est à la fois la bonté de Dieu, à la fois la source de tout, mais c'est aussi la cible, c'est ce qu'on doit découvrir. Dieu veut se faire connaître. Marcher dans la sagesse, c'est apprendre, c'est rendre possible d'écouter Dieu, c'est rendre possible de recevoir de Dieu, c'est pouvoir identifier dans notre expérience la réalité de qui Dieu est. chercher la sagesse, courir après, comprendre, saisir, se remettre en question, chercher, recevoir, prier, un chemin nécessaire pour découvrir toujours plus profondément qui Dieu est et pour entrer dans ce à quoi nous sommes appelés, à être témoins d'une manière ou d'une autre de cette réalité. Alors Seigneur, ma prière, c'est que on comprenne, on cherche, on entre, on progresse, on grandisse dans cette dimension de sagesse, de compréhension, qui conduit à être émerveillé. Plus on te comprend, plus on est sage, plus on discerne les choses, plus on avance, plus on réalise cette chose centrale. Tu es bon, tu es un Dieu merveilleux. Et je te prie que ça puisse être à nous tous notre expérience. On est sur ce chemin, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs, que moi-même, on parcourt ce chemin, on grandit sur ce chemin, on progresse dans ce chemin. Aide-nous à réfléchir, à penser, à considérer, à ne pas aller en pilotage automatique, mais à prendre pleinement notre responsabilité, Seigneur. Que ton esprit produise cela en nous, s'il te plaît. Amen. Et que ta parole produise cela aussi. Je trouve une des difficultés de la vie d'église, on entend une prédication, on écoute. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on poursuit cette sagesse? On a reçu quelques échantillons de sagesse. Comment poursuivre? Alors, pour vous encourager, on a préparé avec Suzy la petite carte qu'on vous avait envoyée à Nouvel An. Et j'aimerais vous encourager, vous exhorter, vous aider. Gardez-la, lisez-la. Je ne me fais pas d'illusions, on ne va pas lire ça pendant des années, mais réfléchissez à ces passés. Mettez-la dans votre Bible quand vous lisez, pour que ce soit quelque chose qui vous retienne. C'est des ancrages fondamentaux. C'est des principes de base pour trouver la sagesse divine. Amen.